Le SNCL, le Salon des maires et des collectivités locales du 16 au 18 novembre 2021 à Paris Expo, Porte de Versailles, en partenariat avec Action Logement sur Radio Immo et Radio Territoria.
Salut à tous, merci d'être avec nous. On est toujours en direct ici au Salon des maires et des collectivités locales. Il y a d'ailleurs le congrès qui est pas très loin de chez nous. On est ravis d'être avec vous aujourd'hui. Nous sommes le 16 novembre 2021. Voilà, on va essayer de ne pas massacrer les oreilles de nos invités parce qu'effectivement, on a le jingle un peu fort. En tout cas, je suis ravi. On a des élus locaux comme on les aime. On est ravis d'être avec vous. Je vais les présenter pour cette table ronde spéciale Outre-mer. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Didier Laguerre. Bonjour Didier.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Ça va bien.
Alors Didier, vous êtes le maire de Fort-de-France, donc en Martinique bien évidemment, et on est ravis d'être avec vous parce qu'on va parler justement des territoires ultramarins, notamment avec Ibrahim Madia. Comment ça va ?
Très bien Sylvain, en pleine forme.
Voilà, directeur Outre-mer pour le groupe Action Logement, merci d'être avec nous.
Merci
et
à vous.
Bien sûr, on est ravis d'accueillir sur le plateau Sophie Charles. Bonjour Sophie.
Bonjour Sylvain.
Voilà, maire de Saint-Laurent-du-Maroni, vous êtes en outre président de la communauté de communes de l'Ouest guyanais.
C'est cela.
C'est bien ça. Alors, moi je suis ravi d'être avec vous, parce que enfin, on va pouvoir parler des territoires ultramarins, des territoires d'outre-mer, dont on ne parle pas souvent. Je disais tout à l'heure aux antennes, souvent il faut venir à Paris, vous êtes d'accord Didier, hein ? On vient à Paris, Sophie, quand vous voulez voir les politiques, vous venez à Paris, etc. Est-ce qu'ils viennent vous voir à Saint-Laurent ? Est-ce qu'on va dans les territoires ? Est-ce qu'on s'y intéresse ? En tout cas, c'est le cas d'Ibrahima, qui va forcément au contact en permanence. Moi, ce que j'aimerais commencer pour ce débat, et on a du temps pour en parler, pour une fois, on a du temps, c'est de parler un peu plus de vos territoires. Je vais vous donner la parole, Ibrahima. La raison de votre présence, ce que vous faites au sein d'Action Logement et avec justement les élus locaux qui nous entourent pour justement dynamiser ces territoires d'outre-mer.
Merci beaucoup Sylvain. Donc Ibrahima Dia, je suis directeur outre-mer au sein du groupe Action Logement. Comme vous le savez, Action Logement a mis en 2019 un plan d'investissement volontaire d'1,5 milliard pour les territoires ultramarins. Pourquoi cet investissement pour les territoires ultramarins ? Parce qu'on s'est rendu compte que il y avait énormément de besoins et que Action Logement, organisme paritaire avec une mission d'utilité sociale, se devait d'accompagner les territoires dans le développement et puis également en termes d'habitat et de logement. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, comme j'ai l'habitude de le dire, pour déployer ce programme d'investissement volontaire, Action Logement a fait le choix d'aller au contact des territoires, de mettre en place une politique territorialisée. Tu le disais tout à l'heure hors antenne, on aurait pu décider depuis Paris, ça n'a pas été le cas d'Action Logement. On a fait le choix d'aller rencontrer sur les territoires tous les acteurs, les partenaires sociaux, les acteurs politiques, les acteurs économiques. Dans ce cadre-là, j'avais conduit une émission pour Action Logement, j'avais rencontré Monsieur le maire de Fort-de-France, Didier Laguerre. J'avais rencontré également la maire de Saint-Laurent-du-Maroni, Madame Sophie Charles, et on leur avait demandé quelles étaient leurs priorités pour leur territoire. Donc, Action Logement, notre ADN, c'est la mission d'utilité sociale, mais c'est également le rapport au territoire. On ne veut pas décider depuis Paris, on veut co-construire avec les élus une véritable politique du logement pour les territoires ultramarins.
Ça, c'est... vous êtes franchement dans le sens de l'histoire. Sophie Charles, quand vous entendez Ibrahima avec ce type de discours, au-delà des discours, avec des faits, des investissements, ce plan d'investissement volontaire qui est quand même très fort, qu'est-ce que ça vous évoque, vous, maire de Saint-Laurent-du-Maroni ?
Écoutez, pour une ville comme Saint-Laurent-du-Maroni où la croissance est en population est d'environ de 6% chaque année, nous avons besoin de logements, mais pas que. En fait, on est en construction d'une ville permanente avec une histoire. Saint-Laurent-du-Maroni, c'est une ville pénitentiaire qui a évolué en une ville à une démographie galopante. Et nous nous retrouvons donc avec effectivement des logements à construire, mais pas que, des infrastructures aussi, et des logements qui peuvent être des logements sociaux aujourd'hui, mais la discussion que nous avons eue avec Action Logement, c'est justement de trouver une solution pour que sur le territoire, nous ayons une diversification des logements pour répondre à toutes les demandes. Parce que nous avons aussi bien des personnes qui viennent pour travailler sur le territoire, et on en parle parce qu'on a des infirmiers, des médecins qui viennent parce qu'on a une augmentation de la population, donc une augmentation des services et des et entreprises,
oui, oui,
obligatoirement. Donc, de ce fait, on a besoin d'une diversification des logements, et puis aussi de pouvoir proposer à la population des choix sur des logements qui ne seront pas forcément que du logement social, mais du logement intermédiaire, puisqu'il faut savoir que nous construisons 80% de logements sociaux.
80%
de logements sociaux.
Le parc, si on prend le parc locatif, oui, de Saint-Laurent.
80% de logements sociaux, et la ville elle-même est à 60% en habitat informel. Donc nous avons vraiment besoin d'acteurs comme Action Logement pour nous aider à construire cette ville de demain. Il n'est pas possible de travailler autrement. Alors nous avons des programmes, nous avons le programme NPNRU, nous avons le programme ACV, mais c'est justement dans ce programme ACV qu'Action Logement pour le cœur de ville est un partenaire incontournable sur la partie qui est de la redynamisation du cœur de ville, qui est l'ancienne ville pénitentiaire, mais aussi la partie où nous souhaitons avoir des logements qui sont des logements intermédiaires, qui sont des logements de type différent pour justement pouvoir redynamiser cette partie territoire.
Sophie Charles, comment vous expliquez cette formidable croissance démographique ?
Ah ben ça, c'est l'histoire, c'est le fil de l'histoire. D'abord, Saint-Laurent-du-Maroni, qui était une petite commune qui avait 5000 habitants. Un jour, il y a eu la guerre au Suriname en face, et en une semaine, sa population a doublé. Parce que les gens se sont réfugiés, il y a eu des camps de réfugiés, et certains sont repartis, d'autres non. Et ensuite, bien écoutez, nous sommes sur un territoire où les gens font des enfants. Moi, j'ai une commune qui fait 4800 km², donc on a aussi de la place. Le seul problème que nous avons aujourd'hui, c'est que notre foncier appartient à l'État et non pas à la collectivité
et
aux collectivités guyanaises.
Oui.
Et c'est
notre
grande difficulté avec Action Logement, on en a discuté, parce
bien
que
sûr.
C'est notre difficulté d'avoir du foncier pour faire les logements. On a des partenariats qui fonctionnent, des gens qui sont, comme Action Logement, qui sont venus sur notre territoire, qui ont visité, qui ont vu les problématiques, mais en même temps, il nous faut du foncier pour pouvoir construire.
Et quel rapport vous entretenez avec la préfecture ? Parce que du coup, c'est la préfecture qui est prédominante, les représentants de l'État. Est-ce que vos rapports sont...
Nous faisons des réunions régulières. Mais vous savez que l'administration centrale, je l'appellerai comme ça, est plutôt dans un rythme administratif qui n'est pas le rythme de la vie de tous les jours et le rythme de la vie des administrés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même sur les logements sociaux, où il y a entre 600 et 800 logements sociaux construits par an, il nous faudrait 1500 logements sociaux.
Bien sûr.
Mais on n'a pas forcément la LBU suffisante. On n'a pas besoin. On a des choses qui ne vont pas suivre.
Vous n'arrivez pas à produire suffisamment de logements. On l'a bien compris. Vous avez besoin d'investissements volontaires justement là-dessus. Aussi de classes intermédiaires, parce que vous avez parlé d'un sujet très important. On en parlera d'ailleurs. C'est le logement intermédiaire. Hein.
Ah oui.
Il faut savoir qu'il y a des personnes qui ne sont pas éligibles au logement social, mais qui ne le sont pas assez non plus pour aller dans le parc locatif privé. Donc forcément, on les appelle les intermédiaires. Donc eux, il leur faut une offre. Justement, je vais revenir vers vous pour ce sujet qui est crucial. Didier Laguerre, maire de Fort-de-France, vous êtes sur une configuration démographique un peu différente.
Oui, tout à fait.
Vous êtes même sur une démographie plutôt négative.
On est sur l'exact opposé en termes d'évolution démographique, puisque nous, on a en Martinique une démographie qui diminue. On a une population qui décroît et qui vieillit. Mais l'évolution démographique conduit aux mêmes problématiques, besoin de construction de logements. La ville de Fort-de-France, c'est 28% de son parc de logements locatifs qui est du logement social. C'est à peu près la moitié du parc de logements qui est du logement informel. La problématique que Sophie connaît en Guyane, on l'a connue il y a 60 ans à Fort-de-France avec une explosion de la démographie. Et donc une construction volontaire, spontanée, sur des terrains qui n'appartenaient pas non plus à la collectivité, qui appartenaient à des propriétaires terriens, à l'État.
Bien sûr.
Terrains qu'il a fallu qu'on rachète. Et ensuite, aujourd'hui, on est en train de faire de la régularisation de coupes en sans titre, qui se sont installés là avec l'autorisation du maire de l'époque, M. Césaire. Et on a les mêmes problématiques de besoin de logement. On a 3 500 demandes de logement non satisfaites chaque année à Fort-de-France.
La production de logements nécessite aussi les infrastructures qui vont avec. Mais on a interrogé le ministère de la Transition écologique. On a cherché les chiffres justement pour Fort-de-France. Alors 42 407 logements du parc privé de Fort-de-France. Il y en a 7 867 qui sont vacants, soit 18,6%. Et parmi ceux-là, 3558 le sont depuis moins de 2 ans, soit 8,4% de l'ensemble du parc. Et donc 4309 depuis plus de 10 ans. Comment vous expliquez que certains logements soient inoccupés depuis si longtemps quand on sait, par exemple, que vous avez un besoin hyper important de logements?
Parce que vous avez des logements qui sont des logements d'autoconstruction, de construction spontanée, qui sont frappés par l'indivision, parce que vous avez des logements qui sont dans des quartiers qui sont en
mais
politique
quand vous parlez
de réhabilitation.
D'autoconstruction, ça veut dire non assorti d'un titre.
Ça veut dire que vous autoconstruction, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous construisez vous-même
sans permis.
Donc sans permis, que vous avez construit d'abord avec des feuilles de tôle, du bois, ensuite que vous avez mis des briques pour consolider, que vous avez donc construit votre maison au fil du temps. Cette maison n'est pas forcément adaptée à vos besoins aujourd'hui, quand vous êtes une personne âgée, que vous n'avez plus la capacité de monter 40 marches pour passer de la rue à votre bas de porte. Et donc vous avez de vrais problèmes d'habitat dans ces quartiers. Vous avez également sur le centre-ville une décroissance de la population, et donc des logements qui sont vacants, qui ont besoin là pour le coup d'être réhabilités. On est là aussi en politique de rénovation urbaine depuis... bonne quinzaine d'années maintenant.
Et 2004. Qu'est-ce qu'on fait de ces autoconstructions? On les déconstruit, on détruit?
Alors on a des programmes de résorption d'habitat insalubre, et donc on va réparer certaines maisons, on va déconstruire certaines, on va déloger, reloger, procéder à la construction d'ensembles immobiliers, mais c'est des modes d'habiter très différents. Vous avez l'habitude d'habiter dans votre petite maison de 70-80 mètres carrés, vous vous retrouvez dans un appartement. C'est pas le même mode de vie, vous n'avez plus la possibilité d'avoir vos animaux autour de vous, etc., vos plantes, y compris votre petit jardin qui vous permet de produire une partie de ce que vous consommez. Et donc, vous avez un autre mode de vie. Et là aussi, on est sur les mêmes problématiques. Je ne veux pas, très clairement, que le centre-ville de Fort-de-France, qui est sous programme de renouvellement urbain, qui est en plan d'action cœur de ville, je ne veux pas qu'il devienne une concentration de logements sociaux. Il faut au contraire qu'on ait une diversification de l'habitat. Il faut qu'on aille sur de la réhabilitation.
Ce qu'on appelle quoi, une mixité sociale et fonctionnelle.
Ben oui, parce qu'il faut aussi reconquérir ce cœur de ville et ce centre-ville, comme tous les centres-villes de la Martinique, parce que c'est des problématiques d'aménagement du territoire, de consommation du foncier disponible. C'est aussi des problématiques et des enjeux d'aménagement et donc de transport, d'énergie, d'assainissement, etc. Et donc des coûts de politiques publiques qui sont mises en place. Et à côté de ça, quand vous avez une population en centre-ville qui est repeuplée, eh bien cette population porte l'activité économique. Et donc vous êtes aussi dans une dynamique d'activité économique, de développement, et donc de réponse aux besoins des jeunes. Et donc là, vous répondez à une des problématiques qui est celle de la diminution de la population et de l'exode des jeunes martiniquais.
Monsieur le maire, si je peux me permettre, Sylvain, on est complètement dans l'ADN d'Action Logement, c'est-à-dire le lieu emploi logement. Une des priorités qu'on a identifiées en Martinique, avec monsieur le maire, c'est reconquérir les centres-villes et les centres-bourgs. Tu parlais tout à l'heure de taux de vacances. Pourquoi ? Parce que les gens, ils partent en périphérie, le maire l'a dit tout à l'heure, parce qu'ils ont envie d'avoir...
Il y a des villes où la vacance, c'est un fléau. Hein.
Oui,
c'est
oui,
un
vrai fléau. Tout à fait.
Ça anesthésie une ville. Hein.
Tout à fait. Et ils ont envie d'avoir une maison, un petit jardin pour cultiver leurs produits, avoir du terrain pour élever leur bétail et tout. Et donc, non, l'idée qu'on est en train de construire avec les territoires ultramarins, notamment avec la ville de Fort-de-France, c'est d'essayer de voir comment on peut reconquérir les centres-villes et les centres-bourgs pour permettre, par exemple, il l'a évoqué, monsieur le maire, c'est-à-dire que le mode de vie n'est plus le même. Comment on peut réussir à attirer dans ces centres-villes et dans ces centres-bourgs des jeunes cadres dynamiques qui sont en emploi? Et voilà, pour redonner...
J'ai la réponse, hein.
Oui, mais pour redonner une deuxième vie à ces centres-villes, Sylvain. Non, mais
quand je t'écoute, Ibrahima, tu parles d'un bouleversement qui est quasiment anthropologique. Hein. Sophie Charles...
Bouleversement anthropologique.
Non, mais anthropologique dans le sens de l'anthropologie urbaine.
Oui,
c'est-à-dire qu'en fait, il y a une... C'est ce que disait Didier, c'est l'art d'habiter. C'est la façon d'habiter. Il y a une nouvelle façon d'habiter.
C'est l'histoire. Le centre-ville de Fort-de-France, c'était le centre commercial. C'était là que toute l'activité commerciale de la ville et du pays se faisait.
Absolument.
En 20 ans, on a vu construire autour du centre-ville 5 centres commerciaux. Donc votre mode de vie a changé. Votre mode d'habiter aussi a changé. Et donc, fatalement, il faut reconquérir votre centre-ville, mais il faut le faire sur d'autres bases que celles d'il y a 50 ans. Sinon, ça va pas fonctionner.
Sylvain, je voulais rajouter juste un dernier élément. C'est-à-dire que je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire le maire de Fort-de-France. Quand tu parles de bouleversement anthropologique, nous, on est là pour accompagner les politiques territoriales. C'est à eux, c'est aux maires de définir ce qui est bien pour leur ville, pour leur territoire. Nous, on est là pour accompagner,
bien sûr.
C'est tout. Donc, bouleversement anthropologique.
Mais tu accompagnes aussi un mouvement qui est sociologique. Il est aussi sociologique.
Tout à fait.
C'est ce que disait d'ailleurs tout à fait Sophie Charles. Quand vous écoutez votre collègue maire, vous qui avez une démographie qui ferait envier certains territoires en France, et qu'on voit finalement la différence entre les deux, c'est
voilà. Sûr, hein.
Alors, ouais. Enfin, moi je vais dire, nous, chez nous, trouver un logement, c'est une gageure. Il n'y a aucun logement libre. C'est-à-dire que c'est un combat pour avoir un logement. Les gens qui arrivent, les enseignants qui arrivent, par exemple, en début d'année, ils ont été mutés, ils arrivent, ils viennent à Saint-Laurent pour enseigner, ils sont obligés parfois d'aller à l'hôtel. Il n'y a pas de logement. Chez nous, on est dans une situation extrême inverse de partout ailleurs. Aujourd'hui, il n'y a pas un logement libre. Quand il y en a un, et de fait, les prix montent, et de fait, toutes les personnes dont on parlait tout à l'heure, ceux qui sont éligibles au logement intermédiaire, eh bien, ils sont en cohabitation obligatoire chez leurs parents, et on retrouve dans une même maison deux, trois générations, parce qu'on n'a pas de logement, on n'a pas de logement. La grande difficulté, elle est là. Et aujourd'hui, la redynamisation du cœur de ville, pour nous, c'est de permettre d'avoir des commerces en rez-de-chaussée et deux étages de logement.
Mais c'est vraiment ça. Est-ce que les promoteurs sont chez vous ? Est-ce que les grands promoteurs nationaux français investissent en Guyane ?
Les promoteurs investissent, oui, parce qu'aujourd'hui, le territoire en devenir, c'est Saint-Laurent-du-Maroni et c'est l'ouest de la Guyane. Aujourd'hui, on a tous ceux qui veulent venir et on ne va pas nommer les enseignes et les grands groupes.
Mais il y a un potentiel énorme.
Aujourd'hui, c'est la guerre à la course au foncier. On rachète. Alors, le problème de l'indivision est un problème, mais chez nous, on a quand même peu de choses dans ce style-là, c'est-à-dire peu de maisons qui correspondent à ça dans le centre-ville. Hein, on en a une dizaine, en tout cas. C'est vraiment pas mal.
En fait, vous contrôlez. Vous contrôlez bien avec votre PLU, les constructions.
On contrôle bien parce que nous sommes une ville qui est classée pour grande majorité au patrimoine. Hein, donc, puisque c'est la ville pénitentiaire.
Oui,
en tous les cas, dans l'ancienne.
Ça veut dire qu'il y a un bâti auquel vous ne pouvez pas toucher, quoi.
Alors, on a des bâtis qu'on peut rénover, mais à l'identique.
Ah oui,
avec les normes qui sont à respecter avec des briques qui sont des briques patrimoniales, etc. Ouais, donc, ça coûte extrêmement plus cher avec la BF. Alors, évidemment, tout le centre-ville, pour le centre-ville, on est dans cette situation où nous avons l'autorisation, enfin, tout l'avis de la BF obligatoire. Et donc, ce qui fait que nous avons aussi un surcoût pour rénover tous ces bâtiments. C'est un surcoût, puisque vous êtes obligé d'utiliser des briques patrimoniales, vous êtes obligé d'avoir un certain nombre de matériaux qui sont des matériaux qui étaient utilisés à l'époque, avec des couleurs, des peintures, etc. Et donc, nous sommes dans un système qui est un peu différent. C'est-à-dire que, un, nous n'avons plus de logement du tout, d'où pour les construire sur le centre-ville, et en tous les cas, ce travail que nous faisons avec Action Logement, c'est justement, mais ne coûte plus cher. On est aussi là-dessus.
Oui. Donc, tu voulais ajouter.
Oui, je voulais juste répondre à ta question également, Sylvain, pour aller dans le prolongement de ce que vient de dire la maire de Saint-Laurent-du-Maroni, Mme Sophie Charles. Pour Action Logement, on a investi 159 millions en Guyane depuis le lancement du programme d'investissement volontaire.
Ah oui, quand même.
Sur Saint-Laurent-du-Maroni, on a investi 67 millions et on a financé sur Saint-Laurent-du-Maroni 1150 logements à travers les autres bailleurs, à travers la SEM-SAMAR, à travers la SIGI, à travers la SIMCO. Donc les investisseurs sont là.
Immédiatement occupés. Hein,
Oui. Écoutez, on a des listes d'attente. Ah ben, écoutez, on a besoin de plus de 4000 logements aujourd'hui, au moment où je vous parle. On a besoin de 4000 logements, on n'en a aucun. De près, chaque fois qu'il y a un programme qui se termine, eh bien, il est déjà complet.
Mais comment ils font, les gens ?
Eh bien, ils attendent 10 ans pour avoir un logement, monsieur.
Où est-ce qu'ils vivent ?
Eh bien,
ils vivent
chez leurs parents, mais ils vivent surtout dans un habitat informel. C'est pour ça que 60%...
C'est de l'habitat indigne.
Je ne sais. Le mot indigne me dérange.
Ah,
moi, ce ne sont pas forcément des logements qui sont faits de briques et de brocs. Ce sont des logements qui sont dans des zones de manière informelle. Il n'y a pas eu de permis de construire. Souvent, ce sont des maisons en bois avec une dalle en béton, avec des pièces, avec des fenêtres, un toit. C'est une maison, une case, comme on pourrait appeler ça aux Antilles. Mais c'est une maison habitable. C'est pas légal parce que vous êtes sur un terrain qui ne vous appartient pas. Vous n'avez pas de permis de construire. Mais s'il fallait que je déplace toutes ces personnes, monsieur, comprenez bien qu'il faudrait que je déplace 20 000 personnes. Comment je le fais ?
Donc vous laissez faire ?
Non, mais moi je fais ce que je peux, c'est-à-dire que j'essaie de trouver des programmes.
Elle ne laisse pas faire, elle accompagne.
Non, mais voilà.
Voilà. Nous accompagnons, nous essayons d'accompagner parce que ce n'est pas toujours évident.
Charles, comprenons-nous bien. Je ne dis pas que vous laissez faire. Je dis que vous préservez un équilibre subtil pour ne pas générer une crise à l'intérieur. Il n'y a pas un élu local qui dirait, attendez, non, je vais tout détruire et puis je vais laisser 20 000 personnes.
Oui, moi je refuse de détruire si on n'a pas un logement à donner aux gens.
Bravo, vous avez raison. Mais ça, vous voyez, si vous n'étiez pas une élue locale, vous ne pourriez pas le dire, ça. Parce que l'avantage des élus locaux, vous êtes d'accord, c'est que vous êtes à portée. Vous savez, je crois que c'est Gérard Larcher qui disait ça, les élus locaux sont à portée de claques de leurs administrés. C'est vrai ou faux?
Oui, c'est vrai.
Quand Didier se balade à Port-de-France,
les maires sont les premiers.
On est d'accord.
Ils sont les premiers. Donc, quand un administré a quelque chose, que cela relève de l'État ou d'autre chose, c'est le maire qui vient voir.
Est-ce que vos administrés, ils vous sont grés de ça? Ils savent que la maire de Saint-Laurent ne le fera pas parce qu'elle a conscience de ça. Est-ce qu'on vous le rend, ça?
Oui. Moi, ils savent que je ne détruis pas une maison si la personne n'est pas relogée. Parce que dans une maison, ce n'est pas une maison. C'est une famille. Ce sont des gens avec des enfants, avec des parents parfois, avec des frères, des sœurs, des oncles, des tantes qui habitent avec eux. Donc, il est important que l'on puisse reloger avant de détruire. C'est important. Sauf qu'aujourd'hui, nous devons courir après un système qui est déjà installé et qu'il faudra que nous puissions construire davantage de logements et peut-être trouver des solutions un peu différentes. Moi, ce que je souhaite, c'est aujourd'hui pouvoir avoir du terrain plutôt pour donner à tous ceux qui sont dans une situation intermédiaire, qui peuvent construire eux-mêmes leur maison, d'avoir des parcelles, même si elles sont petites, pour que demain, ces personnes puissent construire leur maison et donc libérer pour certains les logements les logements sociaux qui sont aux bailleurs. Pour d'autres, libérer les squats et pouvoir construire la maison. Moi, j'avais demandé à l'État un programme dès 2019, d'un programme de 1000 parcelles. Je bataille toujours à ce jour pour les obtenir. J'espère
vous les avez
que. Ben non, je suis en bonne voie, mais la voie n'arrive toujours pas, voyez-vous. Donc, j'essaie toujours.
On va lancer un appel, justement, pour leur. Parce que l'inconvénient, Sophie, que vous avez. C'est que, vous me l'avez dit tout à l'heure, vous n'avez pas de foncier direct pour la mairie, parce que la configuration du territoire fait que, par l'histoire, le terrain appartient à l'État.
Oui, mais même pour faire une école, je suis obligé de préempter pour quelqu'un qui va vendre pour faire des constructions.
Il vous donne les terrains.
Ben c'est ce que j'ai demandé. J'ai demandé aujourd'hui. J'ai demandé 2000 hectares à l'État, j'attends la réponse. Parce que voyez-vous, moi j'ai quand même 4800 km², c'est-à-dire que c'est pas qu'il manque de terrain sur ma commune. Vous voyez, c'est un peu. Vous avez peut-être pas à Fort-de-France cette disponibilité, mais moi je l'ai. Et le problème, c'est que comme on me donne pas, je peux pas faire.
En fait, le luxe que nous n'avons pas à Paris, c'est l'espace. C'est ce que vous avez précisément, mais encore faut-il vous laisser faire.
Voilà.
On voit bien la différence entre les deux territoires, bien évidemment, parce que j'allais dire, l'espace, c'est pas ce qui caractérise non plus la Martinique.
Non, on a des différences de territoires entre Saint-Laurent du Maroni et Fort-de-France, entre la Martinique et la Guyane, mais on a des problématiques qui, au final, sont
communes. Sur la manière d'envisager le logement pour les gens, ça, c'est une chose. Ouais. On envisage le logement comme si les gens n'avaient pas une histoire, une manière de vivre. Moi, je pense qu'il faut prendre en compte.
Avec l'ancrage.
L'ancrage local, le bassin de vie, la manière dont sociologiquement les gens vivent ensemble pour pouvoir créer des logements qui soient adaptés et qui leur ressemblent. Parce qu'aujourd'hui, les logements qu'on fait, on ne va pas recréer ce qu'on a fait ici dans l'Hexagone et on veut parfois des barres d'immeubles qui demain matin seront complètement des problèmes.
Nous, on les démolit.
Oui, mais vous justement, mais nous aujourd'hui, moi je demande à ce qu'il y ait plus de logements, pas de barres d'immeubles, R+2 maximum, on essaie de limiter les choses, on fait des préconisations qu'on espère qui permettront de gérer ces problématiques.
Alors,
on a à peu près les mêmes problèmes au final sur l'aménagement, sur les problématiques de logement, sur la réponse. Ils ont une démographie qui explose, nous on a une démographie qui diminue. une population qui vieillit, donc des besoins différents. Un besoin de logement sur la ville de Fort-de-France qui est de 3000 logements non satisfaits, c'est 12 ans le temps d'attente. Il n'y a pas très longtemps, j'accompagnais une administrée qui a déposé son... J'étais vraiment... Les bras me sont tombés. Qui a déposé sa demande de logement social. Et dans la lettre que j'ai pris le temps de lire pour une fois, on lui explique qu'elle a un délai raisonnable pour faire un recours si sa demande n'est pas satisfaite. Le délai raisonnable pour pouvoir faire un recours est de 7 ans.
7 ans ?
7 ans. C'est-à-dire que
c'est considérable.
Avant 7 ans, vous ne pouvez pas considérer que ce n'est pas normal que vous n'ayez pas eu un logement. Donc on a cette problématique-là malgré une population qui diminue, une population qui vieillit. Donc il faut reloger, il faut adapter les logements. Il faut, pour le coup, on a des logements au-dessus des commerces. Mais avec la modification des modes de vie, ces logements aujourd'hui servent pour certains de dépôt aux commerçants qui sont au rez-de-chaussée. Et donc il faut pouvoir reconquérir ce logement-là, il faut pouvoir le remettre sur le marché. Il faut... Nous, on a le centre-ville quadrillé par des monuments historiques, c'est la même problématique, avec là, pour le coup, la nécessité de fondations spéciales pour pouvoir construire, pour pouvoir monter. Le résultat, c'est que vous avez des surcoûts en matière de production de logements qui font que ben, vous avez une LBU qui n'est pas suffisante, vous avez un accompagnement qui est insuffisant, et c'est de là qu'on a besoin d'acteurs comme Action Logement, c'est là qu'on a besoin d'acteurs comme l'ANRU, comme l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, pour pouvoir travailler sur la réhabilitation, pour pouvoir construire des programmes de logement. Aujourd'hui, on construit des programmes de logement dans la ville basse de Fort-de-France, d'une dizaine de logements maximum. Et là, on a vraiment besoin d'investisseurs, on a besoin que les bailleurs sociaux soient là, mais on a aussi besoin que ces acteurs ne fassent pas que du logement social et du logement locatif très social.
Et puis il faut aussi faire, pour aller dans ce sens, on a besoin de logement, mais on a besoin aussi de développement économique. Donc il faut aussi penser le commerce en centre-ville, comment on peut mettre des commerces en centre-ville qui vont attirer toutes ces personnes qui sont en dehors du centre-ville aussi. Parce que c'est ça qui est important. Et nous, on essaie aujourd'hui, quand on est sur un territoire où pas forcément, vous savez, les moyens de communication ne sont pas tout à fait, même si on dit qu'il y a Internet partout, etc. Ça, c'est ce qui est dit, mais dans la réalité, on voit bien qu'il y a des zones blanches partout. Et sur un territoire comme la CCOG, alors il y a des zones où on n'a pas du tout de téléphone, même sur la route nationale qui nous relie à la capitale. Donc, on est sur
une... C'est un vrai sujet, ça.
Ah non, mais c'est un vrai sujet. Et donc,
si
aujourd'hui,
on peut localiser des entreprises qui puissent bosser.
Mais ben oui, aujourd'hui, les entreprises travaillent. Les entreprises ont besoin d'Internet. Elles ont besoin. Voilà, si elles n'ont pas Internet, elles ne peuvent pas travailler. C'est logique. Donc, nous, on a aussi cette problématique d'enclavement numérique qui est aussi un sujet. Mmh. C'est-à-dire qu'on a.
Fracture numérique.
Il y a une vraie fracture numérique sur le territoire guyanais. Ça, il faut l'entendre. Mmh. Alors, on essaie de rattraper, on met la fibre, mais la fibre, elle est installée dans le sol depuis 2 ans chez moi, mais on n'est pas connecté. On n'est toujours pas connecté. Vous voyez, il y a des. Oui, il y a
est-ce
un
que
moment.
La proximité.
Les opérateurs.
Les opérateurs n'ont été choisis que cette année et ils disent qu'il faut 1 an et demi avant qu'ils puissent opérer.
Proximité sur Suriname, Brésil, etc. Ça vous donne... Est-ce que ça facilite ou pas?
Ça ne facilite pas parce que nous sommes confrontés à un problème. Dès que nous voulons faire de la coopération ou utiliser quelque chose, au problème des normes. Si ce ne sont pas des normes européennes, s'il n'y a pas un acte de coopération écrit avec ces pays, nous ne pouvons rien faire. Alors ça, moi je dis que nous sommes dans des bassins de vie qui sont des bassins, pour le nôtre en tous les cas, amazoniens, où nous pourrions avoir vraiment bénéficié d'un certain nombre de choses qui sont faites dans les territoires à proximité. Et malheureusement, nous ne pouvons pas parce que, nous...
Parce que le Brésil serait même enclin à coopérer.
Mais écoutez, je vais vous donner l'exemple du Suriname. Aujourd'hui, quand nous remontons le fleuve, vous pouvez avoir accès au téléphone et à Internet par le Suriname, mais pas par la France. Et quand vous avez... je vais vous donner le pire.
C'est
que quand vous êtes un maire... Oui, c'est un sketch. Quand vous êtes un maire ou un président de collectivité, vous avez des mails qui viennent de l'État. Oui. Eh bien, ils ne peuvent pas passer par ce biais-là, donc vous n'arrivez pas à les lire quand vous êtes sur le fleuve. Voilà. Je vous donne...
C'est extraordinaire ce que vous dites, parce que...
c'est la réalité, surtout. Moi, Sophie, je préférerais que ça soit autrement.
Non, mais Sophie, c'est l'archétype même, en fait, presque pesant d'une technocratie ou d'un poids normatif qui est contre-productif. Parce que quand je vous écoute, c'est là qu'on voit les limites de la norme. D'accord, Ibrahima ? On voit bien qu'il y a, en fait, une vision proactive spécifique liée à votre territoire.
C'est là qu'on voit... Didier, la difficulté d'un regard à 8000 km. Oui. C'est là qu'on c'est là qu'on voit la, le besoin de, ben, d'un développement en harmonie avec son environnement. Pour Saint-Laurent-du-Maroni, c'est, ben oui. C'est le Brésil, c'est le Suriname. Pour la Martinique, c'est la Caraïbe.
Mais voilà,
la petite et la grande Caraïbe. Ici, de l'intérêt d'une loi qui a été votée il n'y a pas très longtemps, à l'initiative de l'ancien maire de Fort-de-France, Serge Timmy, sur la coopération régionale. Tant que l'État ne nous donne pas les moyens de rentrer en coopération directe avec nos voisins et de faire autre chose que de la coopération folklorique, culturelle et sportive,
oui, voilà.
Et donc d'être de vrais fer de lance en matière de développement économique dans nos bassins de vie, eh bien, on sera confronté à ces problématiques-là.
Oui, mais alors, souvent les lois sont faites, mais les décrets d'application ne sont pas adaptés. Ça, c'est aussi un sujet.
Parce qu'ils sont pris à 7000 km.
Voilà.
Et le décret d'application qui sera valable pour Saint-Laurent-du-Maroni n'est pas forcément valable pour la Martinique.
C'est là que la différenciation doit se jouer. Alors moi, je pense que la loi sur la différenciation va arriver, mais j'espère qu'elle sera vraiment une différenciation précise par territoire, par bassin.
Est-ce que vous arrivez à faire valoir votre point de vue?
Mais écoutez, on dit ce qu'on a à dire et puis parfois on nous entend et parfois on ne nous entend pas.
D'accord. Ouais.
En tout cas, moi, ce que je voulais dire,
on est loin des problématiques de
l'Action Logement.
On souscrit complètement à ce qui vient d'être dit par les deux maires, à savoir le lien avec les territoires et la prise en compte des spécificités ultramarines. On ne peut pas, moi en tout cas, c'est ce que nous poussons au sein d'Action Logement, le lien avec les territoires est quelque chose de super important. On ne peut pas décider depuis Paris de ce qui va ou ce qui ne va pas sur les territoires. Il faut co-construire avec les élus locaux, il faut co-construire avec les acteurs du territoire.
Oui, mais excuse-moi, mais c'est vraiment ce que vous faites.
Oui,
je vais le dire parce que moi, Ibrahima, il est venu dans ma commune, il a visité la commune, il m'a dit, mais madame le maire, comment vous envisagez les choses?
Oui.
Et ça permet ensuite de faire des propositions dans le logement qui correspondent aux attentes du territoire. Et là, si tous les organismes avec qui nous travaillons aller dans ce sens-là, on ne serait pas dans cette situation aujourd'hui.
C'est très clair. Parce que vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a quand même des gens derrière, des familles, des personnes qui sont en situation. On me demande de rendre l'antenne parce qu'effectivement, j'ai largement dépassé le temps de parole. Mais vous êtes passionnante. Vous êtes passionnante, Sophie. J'adore vous écouter. Didier, vous êtes franchement dans la ligne de l'héritage. Je sais que vous n'aimez pas qu'on le dise, mais dans l'héritage d'Aimé Césaire, effectivement, je trouve
je suis pas,
que vous
je
avez...
Suis pas, je ne suis pas... il a des héritiers, ce sont ses enfants.
Je
poursuis une action politique, une vision politique, une vision humaniste,
oui.
Parce que tout ce qu'on fait, on le fait pour des gens. Tout ce qu'on fait, on le fait pour permettre à des êtres humains de vivre mieux et d'accéder au bonheur auquel nous aspirons tous.
Didier, Sophie, vous avez un dénominateur commun. Nous, qu'on aime beaucoup à Territoria, c'est le fait que vous soyez des élus locaux. Et que, vous savez, les élus locaux ont cette particularité, justement, de prise directe avec le terrain. Le début du quinquennat avec Emmanuel Macron a été un peu, on va dire, particulier avec les élus locaux, pour pas dire autre chose, d'accord ? Et puis, il y a les gilets jaunes qui sont arrivés. Et puis, d'un seul coup, on s'est rendu compte que les élus locaux étaient plus que nécessaires dans l'équilibre social du pays. Et donc, du coup, on retrouve les vertus de l'élu local. Moi, je pense, effectivement, qu'il est fondamental qu'on vous laisse la possibilité et d'administrer votre territoire.
C'est pas que lui, hein. Les élus locaux et les collectivités locales ont été mises sous contrainte très forte en réduisant leur budget recettes et leurs dotations dès 2012.
Absolument.
Et c'est le moyen pour le gouvernement et pour l'État de mettre sous contrainte les élus locaux et donc de prendre la main.
Mais c'est même pire que ça. C'est pas que sur le budget. C'est dans la manière de faire le système des appels à projets. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas présenter ce que vous avez envie de faire. Il faut répondre à l'appel à projet. Cet appel à projet, il a des normes, il a des cases qu'il faut croiser. Si vous n'avez pas mis les petites cases au bon endroit, eh ben, vous ne pouvez rien faire. Et ça, c'est un problème. Avant, nous avions la possibilité de dire « Moi, j'aimerais avoir ça pour mon territoire. » Aujourd'hui, on est obligé de chercher quel est l'appel à manifestation d'intérêt qui correspond, où est-ce que je vais pouvoir rentrer dedans. Et ça, c'est pas. C'est,
et je comment crois je vais, que et comment je vais,
ça
je vais
empêche, empêche voilà.
mon projet pour qu'il rentre, pour qu'il rentre dedans.
Et ça, c'est un exercice qui ne devrait pas exister.
Merci. En tout cas, je voulais vous dire, en dernier mot, que vous aurez toujours à vos côtés Action Logement pour vous soutenir, pour vous accompagner pour le développement de vos territoires.
Merci beaucoup. Vraiment un plaisir. Venez nous voir à Paris quand vous serez à Paris, Sophie, vous serez la bienvenue. Et on viendra vous voir, c'est promis.
Je vous accueillerai.
Notre groupe viendra vous voir et vous suivre dans votre territoire, en plus que j'aime particulièrement, parce qu'en fait, je suis pêcheur devant l'éternel.
Oh là 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 là.
Et votre territoire, c'est le paradis de la pêche.
Oui.
Voilà. Mais
oui.
Vraiment, le paradis de la pêche. Voilà. Sophie Charles, maire de Saint-Laurent-du-Maroni et président de la communauté de communes de l'Ouest Guyanais. Un grand merci. Voilà, un grand merci à vous. Didier Laguerre, vous êtes le président de Fort-de-France. Voilà,
le maire.
Je viendrai. Pardon, le président de Fort-de-France. Est-ce qu'il n'y a pas finalement une prophétie ?
Il y a un petit lapsus là qui est.
Ou une prophétie peut-être.
Ah, la prophétie.
Voilà, le maire de Fort-de-France.
Maire de Fort-de-France, vice-président de la CACEM, voilà. Président de la commission des finances de la collectivité territoriale de Martinique, ça me suffit largement.
Ça vous suffit largement. Je viendrai vous voir aussi avec grand plaisir. Surtout, ne changez rien. Et encore une fois, le territoire et les territoires sont administrés par les élus locaux qui sont proches de leurs administrés. C'est un débat qui va durer toute la journée, mais aussi demain. Merci à tous.
Le SNCL. Le Salon des maires et des collectivités locales du 16 au 18 novembre 2021 à Paris Expo, Porte de Versailles, en partenariat avec Action Logement sur Radio Immo et Radio Territoria.